Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue à cette balado SPA 4.0. Et oui, 4.0 balado live simplement plein air tous les vendredis soirs ici sur YouTube, naturellement. Et vous savez que vous pouvez nous prendre en rediffusion aussi, naturellement, à tous les semaines. Écoutez, une fois que la balado live est terminée, naturellement, la balado est automatiquement postée sur notre canal YouTube. Et pour ceux qui nous écoutent aussi, et qui ne nous voient pas, ben on vous invite à venir vous abonner au canal YouTube Simplement Plein Air. Tellement plaisant, tellement le fun. On passe des beaux vendredis soirs ensemble et on va en passer un autre, un beau vendredi soir avec un invité. Mon son est un petit peu fort. Avec un invité que vous allez adorer, avec un passionné. Mais avant de faire ça, moi, je vous dirais, si vous n'êtes pas abonné, allez dans le bas ici. Là. Dans le bas, vous avez l'abonnement. Cliquez sur l'abonnement et puis il y a une petite cloche qui va vous apparaître. Allez cliquer sur la cloche. Pourquoi qu'on demande ça? Ben c'est parce que Simplement Plein Air, naturellement, et écoutez, je sais, on est travailleurs autonomes, on veut arriver à 1000 abonnés. Pourquoi est-ce qu'on veut arriver à 1000 abonnés? C'est fort simple. On veut monnayer notre canal YouTube, naturellement, et pouvoir continuer à s'équiper. Parce qu'on sait que l'équipement coûte excessivement cher, c'est dispendieux et naturellement, bon, on vous donne des prix à toutes les semaines. Hein? Les prix cette semaine, super le fun, les prix vont être, écoutez, j'ai ça ici, un Black Sale, regardez bien ça. Hein? Pour ceux là, qui vont à la chasse, il y a des poils, après. Ah ouais, c'est des poils du chat. Regarde, attendez un peu. J'essaie de m'aligner, c'est pas évident. On voit, c'est un petit flasque avec deux petits verres et l'entonnoir qui vont avec. C'est ce qu'on va donner. La façon dont on donne ça, c'est simple. C'est avec vos commentaires, vos questions que vous allez poser au courant de l'émission. Naturellement, il faut être live pour ça. Si vous nous écoutez en différé le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après ou le mois d'après, ben, posez pas de questions. Vous pouvez toujours nous poser des questions, mais posez pas de questions parce qu'on vous répondra pas live naturellement. Donc, c'est ça. Et on a aussi une belle casquette Simplement Plein Air avec l'emblème, avec l'adresse Simplement Plein Air Facebook. Donc, là-dessus, moi, écoutez, les abonnements, pourquoi, balado rappel, les prix à gagner, comment on peut les gagner. Hein, on fait toutes des petites listes parce que sinon, on oublie tout. Donc, j'ai passé la première partie, j'espère que j'ai bien passé le test. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher quelqu'un. Vous avez vu les annonces? Hein? Vous avez vu là? Eh oui, Guy Larochelle. C'est qui Guy Larochelle? Ben, vous allez voir. Premièrement, on va l'inviter en studio. Là, il s'en vient. Regardez bien ça. Eh oui, il s'agit de notre ami Guy Larochelle. Guy, salut. Comment ça va, mon cher?
Salut Guy, ça va très bien.
Ça va très bien, pas trop nerveux.
Un petit peu fébrile, un petit peu nerveux, mais ça va.
Tu vas voir, ça va bien se passer, mon cher. Écoute, on fait de la radio maintenant ensemble depuis plus de 9 mois. Hein? Ça fait environ 9 mois, 9-10 mois qu'on fait de la radio ensemble. Oui, on est à la radio.
C'était le mois de mars l'année passée.
Ah, mais donc, ça fait une dizaine de mois d'abord. Ah ouais, on est pratiquement là. On est rendu, je te dirais que ça passe tellement vite le temps. Hein? Là,
je naturellement. Pense qu'on s'est parlé à peu près à toutes les semaines depuis. Là.
Oui, oui, oui. Ça fait, ben écoutez, neuf semaines, neuf mois fois 4, 36. Donc, 36 émissions derrière la cravate. Là, c'est ta première live avec moi ce soir, puis on a tellement de belles émissions, on a tellement de vidéos. Écoutez, ça fait un mois et demi qu'on se prépare, c'est pas vrai, c'est juste une farce. On a déjà beaucoup de commentaires d'ailleurs. Denis Tanguay qui nous dit bonsoir à vous, Marc Prince qui nous dit « Salut, amigo ». Annie et Sylvain Duval nous disent « Bonsoir ». « Hello, gang » de Cindy Bush Girl. « Salut, Guy ». »« Salut, salut, Annie ». »« Salut, Sylvain ». Ouais, Sylvain, c'est ça. Et Marc. Et hey, 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 salut, monsieur La Rochelle.
Ben, salut tout le monde.
C'est le fun. C'est vraiment le fun. On est une belle gang. Et puis, n'hésitez pas, hein, la gang, à poser des questions. Il y a des beaux prix à gagner. Il y a des choses comme ça. Naturellement, on sait que, écoutez, ceux qui sont là chez Simplement Plein Air, nos chroniqueurs, allez-vous-en pas si je vous dis ça, là. Mais ils peuvent pas gagner les prix. Ils n'ont pas le droit. Caroline, c'est plate, par exemple, mais c'est pas grave, ils sont là, ils sont avec nous, puis on connaît Marc, on connaît Cindy, et puis je devrais te dire, monsieur, madame Duval? Salut, Annie. Ouais, je veux juste vous agacer, là. Mais écoute, moi, j'aimerais ça, premièrement, parce qu'on sait que là, on a peut-être des gens qui nous connaissent, mais la vidéo va paraître quand même, là, va devenir immortel à partir de ça. À partir de la fin, là, mais qu'on clique OK, end of the broadcast, tu vas devenir éternel, mon cher. Donc, en devenant éternel, on aimerait beaucoup que tu te présentes, savoir c'est qui ce Guy La Rochelle. Premièrement, Guy, t'es pas arrivé à Rouyn-Noranda comme ça, t'as un bagage d'expérience aussi. Le pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à Rouyn et qu'est-ce qui t'a amené l'amour, moi comme je me plais toujours à le dire, l'amour du bois et l'amour, comment j'ai écrit ça, l'amour de la passion du bois et du bois, en tout cas de bois et du bois, là. Ouais, c'est ça, de bois et du bois, là, les deux, mais qu'est-ce qui t'a amené là, Guy?
Ben, en fait... Quand on a commencé ensemble là, les petites chroniques là, de semaine, de lundi matin ou mardi matin, tu m'as fait réaliser que j'étais un passionné. Moi je me trouvais pas passionné comme toi tu me décrivais. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça a toujours été en moi, ça. J'ai toujours eu cette attirance-là, autant pour la forêt que pour le travail du bois. Moi, je suis originaire d'Amos, puis j'ai fait des études en technique forestière. Je suis sorti en 84 du cégep. J'ai fait un cours en transformation des produits forestiers. Ça m'a amené à travailler dans une usine de sciage pendant plusieurs années. Je m'occupais de contrôle de qualité, séchage du bois et de classification. Alors, à ce moment-là, je trempais, j'avais vraiment deux pieds dedans. Deux pieds dans la transformation du bois, l'odeur, dans l'usine, tout ça, moi, ça me passionnait beaucoup. Au cours des années, bien, il y a eu des changements au niveau de la foresterie. Ça m'a amené à aller travailler plutôt du côté du gouvernement. J'ai fait plusieurs années comme technicien forestier, disons, mais je m'occupais des droits fonciers pour le ministère des Naturels. Droits de passage, c'était public, émission de droits pour les chalets, les camps de chasse et tout ça. Tout ce qui se faisait sur les terres publiques, bien, je travaillais dans ça. Par la suite, j'ai travaillé pour le ministère des Transports en acquisition. Acquisition de terrain lorsqu'il y a des travaux de route qui nécessitent un élargissement de la route. Il y avait des acquisitions à faire, je me suis occupé de ça. Et j'ai transféré plus tard au ministère de l'Environnement. J'ai travaillé comme inspecteur au niveau des mines pendant plusieurs années. J'ai pris ma retraite il n'y a pas longtemps. Et depuis ce temps-là, ben, je fais des loisirs qui touchent la forêt et les bénisteries entre autres.
Oui, puis c'est là que tu nous as piqué, hein? Parce que moi, là, en tout cas, je parle de moi, là, je t'ai connu à Rouyn-Noranda, naturellement. On s'est connus là-bas, on a commencé à jaser un peu, parler de bois, parler de choses et d'autres. Et puis là, ben, naturellement, on se rencontrait des fois, on se voyait, là, entrevoyait juste ici et là, on se croisait. Et puis, j'ai entendu parler de toi par la suite avec notre ami Marc, justement, Marc Prince. Et puis, j'ai commencé à jaser un petit peu plus. J'avais besoin de bois. J'avais besoin de rondelles de bois. J'ai communiqué avec toi. Là, tu as commencé à me montrer tes projets.
Oui.
Puis là, moi, je me suis dit, hey, je dis, ben voyons donc.
Je vais te rappeler un fait, c'est que tu avais publié sur Messenger ou Facebook, à l'effet que tu cherchais des bûches.
Oui.
Pour oui. le salon chasse et pêche à Rouen.
Oui,
qui se passait en avril 2019.
En plein.
Parce qu'en 2020, il n'y en a pas eu.
Non plus. Oui.
2019, tu cherchais des bûches, justement pour le salon, pour ton studio que tu avais au salon.
Oui, effectivement.
Monsieur Martin, c'est qui ça? Je suis capable de trouver ça, des bûches, moi.
Oui,
je t'avais
oui.
répondu.
Oui,
puis
oui.
c'est à partir de là que ça a cliqué.
Oui, ça, c'est vrai que ça a cliqué, hein, parce que on est toutes les deux des passionnés dans nos domaines respectifs, mais qui se rattachent, parce que moi, j'adore le bois. Hein, je fais de la sculpture, je m'amuse, je sais pas si on les voit, bon, j'ai des bâtons de marche en arrière, je fais tout ça, j'adore le bois. Hein, ça, c'est une passion que j'ai depuis toujours. Et puis là, ben là, justement, en parlant de bûche, là, tu m'arrives, tu dis, ben, tu as besoin d'un bain. Tu m'avais fait un bain. Mais oui. tu sais hein, que ces bûches-là, des bûches de Rouyn-Noranda, sont maintenant à Saint-Ulrich en Matanie et mon bain est dans la cuisine ici. Là. J'ai tout amené avec moi. Là. Moi, les bûches, là, j'en regarde une là, présentement. J'en ai une dans le salon, puis j'en ai deux dans mon studio de tournage en bas, dans le sol. Là. J'ai tout amené ça avec moi. Là. Mais ça t'est venu d'où, tu sais, parce qu'on parle de passion, c'est bien beau, tu sais, de dire, oui, t'as travaillé dans le bois, t'as travaillé au ministère, et puis t'as travaillé, tu sais, mais là, t'es un gars qui a quand même, tu sais, il y a des passionnés du bois qui feront jamais un morceau de bois, là, une bûche ou, tu sais, oui, ils vont peut-être faire du bois de chauffage, mais ça va être à peu près tout, là. Mais toi, ça l'a été, pas mal plus loin que ça, là.
Ah, aussi loin que je peux me rappeler, je fouillais dans les outils de mon père, puis je gossais des morceaux de bûche. Je pouvais faire n'importe quoi. À 5-6 ans, je me rappelle que j'empruntais ces outils. Puis une fois, je voulais couper une planche. Je n'avais pas d'aiguine. J'ai pris la cachette, la scie à fer.
Oh là,
là dans ma tête, ça faisait pas. J'ai dit, je vais briser la scie parce que je scie du bois avec une scie à faire.
OK.
Fait que ça part vraiment de loin, mais pour répondre à ta question, je pense que c'est de père en fils. Mon grand-père, c'était, comme je t'ai déjà raconté un peu, mon grand-père, c'était un colonisateur, arrivé dans les années 30-32 en Abitibi. C'était un constructeur... charpentier, menuisier, mais il faisait tout. Mon père, c'était la même chose aussi. Ben, j'ai tout le temps trempé là-dedans.
Puis là, ben, naturellement, il est venu... Parce que, tu sais, faire un meuble, là... Moi, tu m'as demandé de faire un meuble, tu vas me demander ça, là. Je peux t'en faire un, mais je te garantis rien du résultat. Je te garantis rien de tout ce qui est ébénisterie. J'adore ça, par contre.
Oui.
Mais en sculpture, je vais sculpter des choses. J'adore ça. Mais là, t'aimerais-tu ça qu'on montre un de tes... Premièrement, je suis curieux, là. La bibliothèque en arrière de toi, c'est tout le fait, c'est sûr.
Mais oui. Ça, c'est juste
c'est ça. Planche. C'est ça. C'est des belles planches, mais c'est le fun. Puis on va montrer la première. Tu veux-tu montrer la première petite vidéo tout de suite?
Oui.
On va aller montrer ça. Hey, puis on a notre ami Yannick Bastien qu'on salue aussi, qui est arrivé, qui est avec nous. Le gagnant de la semaine dernière du couteau. Hey, puis Yannick, en passant, là, avant d'aller visionner la vidéo, là, ton couteau il est ici, j'ai perdu la boîte. Là, je te l'envoie lundi. Ça va partir lundi matin, mon gars, tout décolle. J'avais perdu la boîte de ça. Je savais que je l'avais. Mais je ne savais plus où elle l'avait mis. Fait que là, elle l'a retrouvée. Et puis, on a eu une grosse tempête, nous autres, ici. Donc, en tout cas, ça a fait des choses comme ça. On va montrer la première vidéo. Regardez bien ça. Et puis ça, tu peux la décrire, Guy, en même temps. On a le son sur celle-là.
Oui, d'accord. Bien, ce bureau-là, s'il y en a qui veulent se prononcer sur l'essence, puis le bureau, c'est pas un bureau, mais le... La construction ici a trois tiroirs là, dans lesquels on retrouve des couteaux. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, les poignées, c'est fait avec des cornes d'orignal. Alors, l'essence pour ce qui est du bureau, là, et ce qu'il y a par-dessus, là, le trois tiroirs. S'il y en a qui reconnaissent la sorte de bois.
Oups, on a des réponses. Bonjour, ouais. M. Tourangeau aussi, M. Bastien, cool. Pas de problème. Il n'y a pas personne qui a osé se prononcer, Guy.
OK. Bon, ben j'y vais. La commode à quatre tiroirs, là, c'est fait avec du peuplier faux-tremble. Ah, c'est un bois qu'on utilise un petit peu en bois de poêle. Disons, si on parle des particuliers, là, parce qu'on sait que le peuplier faux-tremble sert beaucoup en déroulage et pour la fabrication de panneaux presswood, là, en copeaux.
Un copeau, c'est ça?
Alors, cet arbre-là était sur un terrain en ville, puis il est en fin de vie, puis il était pour tomber sur les fils électriques. Alors, Hydro-Québec l'avait identifié pour l'abattre et en disposer. Fait que ce qu'ils font dans ce temps-là, ils vont la plupart du temps le donner au contracteur. Il va couper ça en bûche, puis ça va passer en bois de chauffage.
Puis en bois de chauffage, c'est
ça? Dans les années 95, je travaillais pour une compagnie qui s'occupait de surveillance résidentielle ici à Rouen. Je m'occupais de cette maison-là. Alors, quand j'ai vu l'arbre coupé au sol, j'ai appelé Hydro-Québec. Je leur ai demandé, est-ce que je peux le ramasser? Puis, on dit oui. Fait qu'il m'a coûté les frais pour le faire couper en planche. Ça l'a donné ce bureau-là.
Donc, ça t'a coupé juste le temps, finalement.
Le temps, puis le couper en planche, le payer pour le faire couper en planche dans un...
C'est ça.
C'est
ça. C'est une des choses que j'aime beaucoup chez vous. Parce que finalement, tu sais, du peuplier, il faut tremble. Puis pour les gens du Sud, les gens du Sud vont appeler ça plus, du Sud du Québec, je parle, là, vont appeler ça du tremble.
Du tremble.
Hein? Du tremble. Ouais. Tout court, là. Jamais personne. On sait que c'est un bois franc. Hein? Première des choses. Mais jamais, jamais personne va penser à faire des meubles avec ça. Puis pourtant, on le voit bien, là, c'est un meuble. Combien ça fait de temps que tu l'as fait?
Lui, ça fait, je pense, des années 95 quand j'ai fait scier mon bois. Puis je l'ai utilisé là, quand même beaucoup plus tard. Je l'ai utilisé vers les années 2002-2003 que j'ai fabriqué le meuble. Il y a eu le temps de sécher comme il faut dans ce temps-là, mais ça ne prend pas 5 ans à sécher, là. Mais ça va prendre, disons, un an. Si on se prépare comme il faut, le faire sécher de la bonne façon, bien espacer avec des baguettes, recouvert si vous voulez le mettre dehors sur une surface très droite, plancher de béton, par exemple, dehors, recouvert, par contre. Il ne faut pas qu'il pleuve dessus. Il va sécher, puis à l'automne, il va être très bon pour faire de l'ébénisterie.
Puis, si on a un espace dans un garage, à ce moment-là, Guy, est-ce que ça fonctionne aussi ou c'est mieux que ça soit dehors pour qu'il y ait plus de ventilation?
Ça prend une circulation d'air.
Mais
ça pourrait être des ventilateurs. Il y en a qui se fabriquent des mini-séchoirs chez eux, juste pour la circulation d'air, puis ça fonctionne.
Parce que, c'est-tu vrai quand on dit là, que si on le force un peu trop, il va tendre à craquer le bois? Si on le force le séchage trop rapide?
Pas à l'air libre.
Si on le force, là.
Pousser trop de chaleur, ça serait mauvais.
Ouais,
juste en passant, si on revient au séchage, parce que j'ai quand même, dans ma vie de travailleur, me suis occupé pas mal de séchage de bois, ce qu'on faisait, c'est qu'on fermait complètement l'entrepôt, totalement hermétique. On augmentait la chaleur à 200-220 degrés. Fahrenheit.
Oh là là.
Ouais. Puis là, l'humidité augmente. Fallait que l'humidité augmente le plus haut possible dans l'entrepôt. Quand on avait atteint notre 200 à 220 degrés, on commençait à ouvrir les trappes et on contrôlait. Et là, le bois était chargé d'humidité. Et là, quand on ouvrait les trappes avec tout le système de ventilation, bien là, tu suctionnes l'humidité qui est dans le bois. Et tu sais qu'on fait une planche qui pèse 1 kg, une fois sèche, pourrait peser 0,5 kg, puis des fois moins.
Wow! Donc, il y a une perte, là. C'est sûr, elle perd toute son eau. Hein.
Oui, puis pour revenir à ta question, avec les moyens qu'on va prendre, nous, là, comme les particuliers, n'y a pas vraiment de problème à fonctionner avec la ventilation. Il ne craquera pas là, comme on pourrait penser. Là.
Puis, est-ce qu'il est porté à tordre ou il est porté à... Ouais, hein, faut que ça s'aille bien.
On va montrer un petit peu plus tard les autres planches que j'ai, là, qui sont en attente de travaux, là, en attente de séchage. Mais le truc là-dedans, c'est de mettre des espaces, des lattes à tous les rangs, d'attacher ça avec des binders. Ah, alors, si tu as des planches de 8 pieds, tu vas mettre un binder à chaque bout et un au centre. Quand j'entends binder, c'est les straps à cliquer.
Des straps à cliquer, là, oui.
Toutes les semaines, tu peux venir lui donner un petit coup parce que ton bois en séchant, lui, il va rapetisser. Il va rapetisser d'épaisseur, puis quand même assez considérablement.
Puis là, on va aller revoir un autre beau meuble. Tu veux-tu aller passer à l'autre meuble tout de suite? Je pense qu'on ne peut pas le décrire, celui-là. Je ne pourrais pas te dire, là, s'il y a
peut-être juste avant, le petit bureau trois tiroirs qu'il y avait par-dessus, il est en pain gris. Du bon pain gris d'habitude.
Ah, OK. Lui est en pain gris.
Qui était à trois tiroirs par-dessus, là.
Ça, c'est-tu vrai que le pain gris est très, très, très difficile à laisser naturel parce qu'il prend comme une drôle de teinte, c'est-tu vrai, ça?
Ça dépend. Ça dépend toujours. Comme celui-là, c'est un arbre qui avait séché debout. Il avait commencé à prendre la coloration grisée, grisâtre. Mm-hmm. Moi, tant qu'à moi, c'est très beau.
Oui.
C'est toujours une question de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a récolté, puis de quelle façon qu'on va l'entreposer. Parce que c'est quoi qui se passe dans la pièce de bois? C'est l'humidité, c'est les moisissures qui s'installent.
C'est ça qui s'installe, et puis, ouais, c'est ça, c'est justement, là. Écoute, attends un tout petit peu, on a une question. Ce ne sera pas long. Oups, attendez un petit peu. Oh, on va l'enlever de là. On va passer à la question de Yannick Bastien qui te demande, je ne sais pas, est-ce que tu vois la question?
Combien de temps pour être prêt à travailler avec?
Oui, une fois le tic que tu as commencé, le début du séchage, ça prend combien de temps avant que ça arrive là? Bon,
je vais vous donner l'exemple du cèdre. Un cèdre qu'on couperait à ce temps-ci, qu'on va entreposer dans le garage parce qu'on ne veut pas mettre ça dans la neige. Sors ça dehors au printemps, puis pas tard dans l'été, il va être prêt à travailler. Le cèdre, il sèche très vite. Le pin blanc, assez vite aussi. Pour ce qui est du tremble, on va se donner un an.
Ah oui?
Oui.
Donc, le tremble serait le pin. L'érable, lui, est-ce que tu travailles avec de l'érable aussi, on le sait?
Oui, lui, j'en ai d'entreposer, là, ça fait 5-6 ans, puis lui, il serait prêt, mais
c'est long,
il sèche
hein?
complètement à l'air dans le garage, avec l'humidité qu'il y a dans le garage, puis augmentation, perte d'humidité qui va se faire durant les années. C'est sûr que c'est plus difficile, mais si on a un entrepôt à bois avec beaucoup de ventilation, bien, un an, l'érable devrait être prêt là aussi.
Ça devrait être prêt à...
Aussi, ce qui est important aussi de noter, là, c'est que là-dedans, on ne recherche pas peut-être d'avoir un pourcentage d'humidité à 10, par exemple, ou à 15, parce que les normes pour la construction, disons un 2x4 de construction, sont à 17 % d'humidité. Tu n'as pas le droit d'être en haut de ça. Mais tu peux être en bas, mais si tu te retrouves à 5 ou à 5 dans l'érable, il va être pas mal plus dur à travailler, plus fendilleux, plus craqueux, fait que ça prend des précautions pas mal différentes à ce moment-là.
Oh, OK. Oups, je me rends un petit peu, on peut baisser le volume de mon... ici, là. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. M'entendez bien? OK. Oui, c'est ça. Et puis, tu vois, tu m'en apprends au niveau du taux d'humidité. Je ne savais pas qu'on pouvait... Parce que le 2x4 qu'on va acheter, on dit toujours c'est du 2x4 vert. Hein? On dit qu'il est vert, mais il n'est pas vert.
Non, si vous regardez sur le 2x4 chez Rona ou peu importe, il est détempé. Puis ça va être KD.
Clean, KD, ouais.
Clean dry.
Clean dry, ouais.
Ouais, c'est chaud au four.
Ouais.
Le 2x4 de construction, 2x6, tout le bois de construction. Ouais. On est obligé de mettre du bois sec. Si on, exemple, si on fait affaire avec un contracteur, c'est sûr qu'il ne bâtira pas avec du bois vert.
Oui, non, parce que là, ça te tout tordrait là, à un moment donné. Là.
Ouais, puis le pourcentage d'humidité aussi que tu vas avoir dans ta résidence pendant longtemps avant
et, monsieur,
les murs et tout.
Oui, puis ça, c'est une chose que c'est peut-être pas la place de poser la question, là, mais on voit souvent des personnes qui bâtissent, qui construisent. On a une au bout de la route ici, nous autres. Ils bâtissent là en hiver. Il n'y a pas de danger que ce bois-là, il prenne de l'humidité?
Non, mais en fait, le bois, là, à moins de le tremper dans l'eau, il ne reprendra pas l'humidité. C'est sûr que s'il pleut dessus pendant une semaine, c'est pas trop
ouais, bon. Ben là, il y a de la neige, tout ça, puis tant que le toit n'est pas dessus. Puis...
Le bois, il s'est fait comme une coquille, un peu. Là.
Ah, OK. Ouais. Je comprends. On passe-tu à la deuxième vidéo oui. Meuble? Parce que c'est vraiment un beau meuble. On peut le décrire, tu peux le décrire, Guy.
Oui, mais d'accord, ça c'est du cèdre que j'ai acheté ici local. J'ai fait ça, ça fait, mon Dieu, les années 97 à peu près que j'ai construit ça. Il y a le lit, là, le lit, je ne l'ai pas montré, mais tout est en cèdre, les tables de chevet. Puis c'est tout simplement de la planche que j'ai fait scier ici local, que j'ai fait planer. Puis ça, en passant, moi dans ma tête, quand j'ai une idée de meuble, je ne fais pas de plan. Mon plan, il est dans ma tête. Je me couche le soir, là, ça travaille.
Mais là, l'armoire qu'on a vue aussi, là, dans le fond, là, est-ce que c'est toi aussi là, qui as fait ça? C'est-tu du cèdre, ça aussi?
C'est du cèdre aussi.
Ah, OK. Oui,
wow. Il y a deux tiroirs en bas, puis les deux portes en haut qui sont... Pour ça, c'est des tablettes à l'intérieur. Là.
Donc là, tu es en train de me dire que tu travailles à haute voltige, là, pas de plan.
Pas de plan.
Arrive, puis ah ouais, on mesure, on sait ce qu'on a de besoin. Parce que là, il fallait que tu saches que ça rentre là, ça, là.
Oui.
Ça, c'est quelque chose.
Oui, c'est sûr que si j'arrive pour l'espace, comme là, exemple, j'avais eu 48 pouces d'espace, je n'aurais pas fait le meuble à 48, je l'aurais fait. Je ne veux pas qu'il ait l'air d'être encoffré dans l'espace que j'avais. Parce que cet espace-là a été créé quand on a acheté la maison, on a fait des modifications. Et on avait comme un besoin de créer un garde-robe d'une place, puis... être à l'aise aussi dans notre chambre, avoir un grand garde-robe, ça m'a créé ce petit espace-là.
Wow! Parce que je te dis que ça, c'est des belles armoires, puis surtout faites là, de cèdre, tu m'as dit?
De cèdre.
C'est quelque chose.
Cèdre local, puis ça pas de fin de vie, ça, là. Là.
Non, le cèdre, c'est comme... Tu sais, anciennement, les poteaux de cèdre, là, les gens, les clôtures de cèdre, là, tu sais, les parches de cèdre qu'on dit, là. Bon, on a encore aujourd'hui, les gens couraillent ça parce que c'est tellement beau, puis c'est encore vivable, mais ça fait au-dessus de 100 ans que ça a été fait. Là. C'est vraiment un bois qui est résistant. Mais ça, le cèdre, lui, parce que je suis un peu curieux, attends un petit peu, on va aller aux questions, parce que là, odeur, on a l'odeur de tête, attends un petit peu, bon. Yannick nous dit l'odeur de tête bien, ça laisse une bonne odeur, le cèdre. Ça doit être, c'est sûr.
Oui, par contre, une fois quand on le travaille, ça sent toujours. On va prendre une vieille planche qu'on a dans le garage, on va la couper, ça va sentir. Une fois qu'on a mis l'huile, moi, je mets une huile naturelle de protection là-dessus, ça arrête de sentir. C'est pas avoir le bois spécialisé pour construire un garde-robe en cèdre, par exemple, ils mettent un produit pour qu'il soit plus aromatique.
OK. Ouais. C'est un produit qui met l'essence, finalement?
Une essence, exactement. Les anciens coffres de cèdre qu'on avait de nos grands-parents, on ouvrait ça, puis ça sentait toujours.
Oui.
Il y avait comme une petite particule brillante là-dessus quand on se passait les mains, là. Ben, il y a une essence qui est là exactement pour...
Donc, ce n'est pas une sorte de cèdre qui sent ça.
Par contre, il faut faire attention. Il y en a, les cèdres de l'Ouest, ils sont pas mal plus aromatiques. Pas mal plus. Okay. Et là, j'irais plus dans le sens que oui, ça va garder de l'odeur pas mal plus longtemps.
Ah, bon. Parce que ça, on a un peuple de cèdre ici. Là.
Le cèdre blanc, contrairement au cèdre de l'Ouest, tu vas fendre une bûche, un poteau de cèdre, tu vas fendre ça, puis tout de suite, à l'extérieur, tout de suite, tu vas sentir l'odeur. Mm-hmm. Donc, c'est pas pareil.
Oui, même, je suis resté surpris. Moi, j'ai trouvé du bois flottant. On sait que, bon, à Saint-Ulrich, on est sur le bord du fleuve, là. sur le bord de, ils appellent ça ici à Matane la mer, là, mais en tout cas, le fleuve qui est un peu large, admettons. Et puis j'ai trouvé du bois flottant l'été dernier. Je l'ai amené, j'ai fait sécher une partie de l'été dehors, à l'abri. Et puis à un moment donné, j'avais besoin d'un morceau, j'ai coupé un morceau. Hey, puis ça, là, c'est un vieux morceau de cèdre, là. Puis je sentais le cèdre, là, même si ça venait d'être coupé.
Ouais.
C'est bizarre, puis ça, combien de temps que ça a flotté dans l'eau, ça, je pourrais pas te dire, là, mais ça sentait le cèdre à plein nez.
Absolument.
C'est spécial, hein? Tu veux-tu qu'on passe à une autre belle petite vidéo?
Oui, t'en as d'autres?
Oui, on a la cuisine.
D'accord.
Le set de cuisine. Ça, là, c'est un set que tu as fait toi-même, là aussi.
Oui. Là-dedans, on a trois essences. Les pattes de la table sont en merisier, ça vient du secteur de Trois-Rivières. Mais pour ce qui est du dessus, lui, il est en cèdre aussi. Il a pratiquement 2 pouces d'épais. C'est du cèdre local, ça aussi. Et les chaises sont en frêne. Les chaises ont été récupérées. C'est un pot, excusez. C'est un arbre qui a été coupé près d'un terrain de golf à Pointe-Claire. Il était dans une zone tempête boisée entre le terrain de golf et les résidences. Ils l'ont coupé parce qu'il nuisait au fil. Il est resté au sol un an. Il a ramassé 4 ou 5 billots de 4 pieds, 5 pieds. J'ai amené ça à Rouen. Je les ai fait scier. Et j'ai fait les chaises avec ça. Encore là, ce que je veux montrer par tout ça, c'est qu'il en existe plein de sortes de bois. On ne pense pas ou on n'a pas le temps, mais c'est de prendre le temps de ramasser ça. Il y a toujours de quoi faire avec ça.
Oui, ouais, c'est un fait.
Ouais. Les armoires qu'on voit au fond sont en pain blanc. C'est du pain blanc qui est acheté ici, local, chez Bionard. C'est sûr que là, on l'a teint rouge.
Acajou.
Rouge sang, rouge acajou, oui. Puis les planchers sont en frêne rustique. C'est du bois local aussi.
C'est superbe.
Embouffeté. Puis la maison est toute faite avec ça.
Wow!
Fait qu'il y a moyen localement de se procurer du bois que moi je considère de.
Fait que.
De très grande qualité, là.
Quand je dis que tu es maniaque de bois, c'est vrai, là. Parce que les meubles, on voit la qualité aussi, là. Tu sais, c'est bien beau avoir du bois. Je pourrais vous montrer des meubles que j'ai essayé de faire. Non, je ne les montrerai pas, je ne les ai pas sautés.
Ben moi, je fais souvent la joke, à peu près juste la laveuse sécheuse chez nous qui n'est pas en bois. Parce que...
Oui, mais c'est tellement beau, c'est tellement chaud, hein. Du bois, ouais. Là, c'est vraiment, là. T'as une chaleur dans le bois.
Oui.
Tu sais, puis même quand on part, nous autres, là, on part puis on s'en va dans le bois. C'est différent. C'est différent. On sent une chaleur, on sent une appartenance. Peux-tu aller jusque-là?
Une chaleur, une sécurité aussi, moi, je trouve.
Oui, c'est ça, tu sais, on dirait qu'on appartient à... En tout cas, j'imagine, là, pour les passionnés, moi, toutes les fois, je me retrouve dans le bois... Mon épouse pourrait vous le dire, Nancy, là, oubliez-moi, là. Moi, je pourrais m'asseoir là, puis c'est fini, là. Je suis bien. C'est chez nous, là, comme on dit, là. Marc, un commentaire ou une question? Le cèdre a la propriété d'éloigner les insectes aussi, je crois. Bon pour l'entreposage à long terme.
Oui, bien, un peu dans le sens qu'on parlait tantôt, les coffres qui... qui sont conçus
ouais,
pour
les coffres de cèdre.
Le village, les garde-robes en cèdre. Oui, c'est vrai.
Puis ils font aussi des. J'ai vu ça, moi, à un moment donné. Tu sais, il y avait les fameuses boules à mythes, là. Mais il y a les boules de cèdre aussi.
Oui.
Ça, j'ai vu ça. Mais un phénomène, par exemple, dans le cèdre, si on parle de cèdre, là, un phénomène que moi, j'ai remarqué, c'est que quand le cèdre grossit, là, pourquoi est-ce que le cœur est toujours vide? Le centre, là, il se vide. À un moment donné, il meurt. C'est le même qui finisse par mourir, probablement, là.
Oui, mais en fait, la partie la plus jeune est pratiquement au bout de l'arbre, là.
Oui, oui, oui.
Le plus vieux, le creux, lui, c'est comme la partie la plus vieille, si on peut dire.
Ouais.
Quand tu commences à regarder les anneaux de croissance, L'humidité aussi, là, à force de grossir, le bois va amollir, tout ça, il va dire sa fin d'âge. Puis, ouais. Oui, c'est vrai, ça va faire un cœur, on appelle le cœur creux, là, mais ça se produit aussi chez le pin gris, le bouleau, oui, mais de façon plus lente.
Ah, OK.
Ça se fait aussi.
Une des choses que j'ai appris, moi, quand j'étais à Rouen, j'étais sur le lac du Parquet, et puis les îles du lac du Parquet ont le plus vieux cèdre au Canada.
Oui.
Les plus vieux cèdres là, sont là, sur les îles, là, sur le lac du Parquet.
Oui.
C'est un site historique.
Ils sont tout petits, puis on parle de... Je ne me prononcerai pas sur le nombre d'années, mais c'est plusieurs centaines d'années.
Oui. C'est spécial, hein? Quand j'ai appris ça, je ne savais pas ça. Moi, je ne me rappelle plus quelqu'un qui m'a parlé de ça à un moment donné, parce qu'on avait été faire du canot, on avait été en pêche. Et puis, justement, ouais, j'ai dit, c'est drôle, hein? J'ai dit, petite île-là, pour moi, c'était sec. C'était avant, puis il y avait du cèdre, puis tout ça. Et puis, c'est justement, j'ai trouvé quelque part là, que quelqu'un disait, là, c'était un historique là, que les îles... du lac du Parquet, c'est là qu'on retrouvait les plus vieux cèdres au monde.
Exactement. Puis c'est la forêt d'enseignement du lac du Parquet, avec l'université, qui ont travaillé beaucoup là-dessus.
C'est vraiment quelque chose.
Oui.
Et puis là, ben, écoute, je pense que tu veux nous montrer des petits outils, ça se pourrait-tu? Ou si tu aimerais mieux passer aux raquettes avant?
On aurait les planches,
il y a les planches.
Les échantillons de planches.
Oui, on va aller montrer ça tout de suite, je pense. Ah oui. Attends un petit peu, Guy, je m'en vais juste te donner un coup de main. Et voilà.
Okay. Là, l'éclair, OK. Peut-être de même, là.
Oui, wow, il y a un beau grain, ce bois-là.
Oui. Et chaque grain, c'est une année. Si on passe d'une zone forme à l'autre, ça fait une année. Fait que si on veut voir cette planche-là, mais là, ça ne nous donne pas l'âge de l'arbre, mais on pourrait savoir que il y a même, je regarde à l'œil ici, il y a des espacements 3/8 de pouce. Ça veut dire que dans un an, ben dans l'été, parce que la saison de croissance.
3/8 de pouce.
Je vous montre que pour ça en été, on appelle ça en foresterie le bois d'été, c'est la zone pâle. La zone foncée, c'est le bois d'hiver, parce qu'il y a une certaine croissance qui se fait aussi en hiver. Puis en été, cette planche-là a poussé, là, si on regarde ici vis-à-vis mon doigt, là, le 3/8 de pouce.
Donc, on peut
aller jusqu'à 1/2 pouce dans le pin blanc.
Oui, puis on dit même que on peut voir, on peut déterminer la température qu'il aurait fait cette année-là par la distanciation ou l'épaisseur aussi de la ligne brune, là, et puis tout ça, là.
Oui, avec les anneaux de croissance, on peut voir s'il y a eu un feu de forêt, par exemple, des choses comme ça. Bon, ça va laisser des traces. Et ce que je voulais montrer par rapport à ça, ça, c'est de l'épinette blanche.
Ah, wow! OK.
Qui pourrait très bien servir en ébénisterie aussi.
Ça, c'est de quoi qu'on pense vraiment pas utiliser, là?
Absolument pas. Puis là,
pas en ébénisterie, en tout cas. Okay.
Non, on fait une petite démonstration. Peut-être, je ne sais pas ce que ça va donner. Avec de l'huile. L'huile naturelle que je prends, c'est de l'huile minérale qu'on prend en pharmacie. On ne voit pas très bien.
Éloigne-les juste un petit peu. Oui, là, on le voit. Là, on le voit.
Ça, ici, est sec.
Wow! Hein?
Cette zone-là est humide que j'ai mis de l'huile minérale qui sent absolument rien, qui protège très bien le bois. On va s'en servir pour les mettre sur les planches à découper.
Ah, ben oui.
L'autre échantillon que j'ai ici, notre bon vieux pin gris.
Assez spécial. Hein?
Cette planche-là provient d'un arbre au lac Wyatt, près de Sainte-Terre, près de Louvicourt, c'est-à-dire. Mes amis qui ont un chalet là-bas ont coupé le pin gris parce qu'il était mort, puis il menaçait de tomber sur le chalet. Ils ont dit, est-ce que tu veux les bûches? J'ai dit, bien certain. Fait que là, j'ai des belles planches comme ça dans mon garage. Il y en a d'ailleurs qui ont été utilisées à plein de choses. J'ai une planche de 8 pouces de large.
Hey, c'est vraiment du beau bois, là.
Ouais. Tantôt, je parlais de début de coloration. On voit un peu des taches grisâtres grisé. Ouais. Mais ça, une fois teint, non? C'est vraiment bon. Pas teint, c'est une fois avoir, après avoir appliqué le vernis, c'est vraiment bon.
Mm-hmm. Oui, parce que si on le teint, là.
Puis on peut le teindre aussi.
Oui. Puis ça, là, parmi tous ces bois-là, le bois de grange, c'était quoi? C'était-tu du frêne, ça?
C'est du résineux.
C'est du résineux, hein?
Gris. Je ne pense pas qu'ils prenaient du sapin, mais de l'épinette en Abitibi, il y en avait comme pas mal quand ils ont colonisé, quand ils ont développé les terres. C'était souvent de l'épinette.
Puis ça, c'est un bois là, qu'on regarde, là. C'est un bois, un, qui vieillit bien, hein, on le sait, c'est la grosse mode de ce temps-là, là. Le bois de grange, on en voit un peu partout depuis quelques années, là, puis même que c'est rendu peu achetable, là, ouais. Du bois de grange, puis les gens, écoutez, si on saurait toute l'histoire en arrière de ce bois de grange-là, c'est des années et des années que c'était là. Ça a été bâti, il y a des granges qui ont été bâties il y a 100 ans. Et puis probablement avec du bois qu'aujourd'hui, on lève le nez dessus.
Oui, parce qu'on parle de Abitibi autour de ça 100 ans. Là, les granges datent de 100 ans.
Mm-hmm. Donc, c'est assez spécial. Oui. Est-ce que tu veux montrer le bois qu'on a? Le petit film où tu avais autre chose?
Par rapport aux planches, les planches dans le garage, nos fameuses planches de tremble.
Oui, c'est ça. C'est vraiment spécial là, de dire que c'est du peuplier faux tremble, ça là.
Ouais, ça provient
d'un seul bio. C'est de toute beauté.
Un seul bio dans lequel mon ami a pu couper 17 planches.
17 planches d'un pouce?
D'un pouce.
Un pouce? Wow.
Disons qu'il y avait à peu près 24 pouces le bio. Là. Fait que le premier tronçon à partir de la racine. La première partie hors de terre, il a pris un bio de 8 pieds, le restant, il l'a envoyé pour le déroulage. Et il m'a scié les planches avec le bio de 8 pieds. Là. Le bio de 8 pieds m'a fait 17 planches.
Et là là. Et puis ça, c'est un projet qui s'en vient. Là.
Un projet, ben, je ne sais pas ça va être quoi.
Je ne sais pas encore.
Non, je ne sais pas encore. Cet été, je vais le sortir, je vais le mettre dehors. Bien droit, je vais l'attacher comme j'expliquais tantôt, avec soit une tôle par-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui aille dessus.
Oui, c'est ça.
Puis après ça, puis même la qualité de sillage. Tantôt, je vous montrais le morceau de pain gris, là, un sablage avec une sableuse à rouleau, puis on est prêt à le travailler. Là.
Ça, c'est spécial. Hein?
Oui, si on veut faire planer, bien là, on a le choix de le faire planer aussi.
Oui, oui. Mais un beau bois comme ça, à un pouce d'épais, là, tu sais, c'est pas du trois quarts de pouce non plus.
Ouais.
Là.
Ben, il y a tout un style, toute une mode présentement, les planches avec le faux bois, le bois de rive, là,
ouais.
On va garder, puis faire le bout de la tablette avec ça.
Mais ça, là, justement, il n'y a pas de danger pour que. Comment est-ce qu'on fait pour la laisser là, ce fameux bois-là? Il n'est pas déligné, là, premièrement. C'est pas, on ne parle pas de l'écorce, là. On parle juste du bord, là, comme ça, là.
C'est ça. Ici, là, l'écorce n'est plus là.
C'est ça.
Elle est tombée de façon naturelle.
Uh-huh.
Là, on arrive directement sur la partie, directement sur le bois.
Mais sur le bois.
Oui, directement sur le bois, puis ça va rester de même. S'il est collé dessus, il y a moyen de l'enlever quand il commence il va y avoir un peu d'humidité, de l'humidité qui va s'installer entre les
branches
et le bois. Là, c'est le temps de l'enlever.
Ah, OK.
C'est le temps de l'enlever puis de le frotter un peu pour enlever la moisissure, finalement. Il va continuer son séchage, puis la plupart...
C'est ça.
Même que lui, là, je le vois ici, il y a des marques de trous de verre.
Oui.
Des verres à bois. Ben, moi, je trouve ça très beau, là.
Ben oui, absolument. Marc, justement, une question, un petit peu, on va t'envoyer ça là.
OK.
Quand tu traites à l'huile, dois-tu renouveler le traitement de temps en temps?
Bon, pour protéger le bois, je dirais que ça, pour un meuble, comme mes meubles de chambre, qui sont juste à l'huile, en pensant, c'était de l'huile d'abrasin. Ça s'appelle de l'huile d'abrasin, celui-là.
Okay.
Je suis avec ça parce que je trouve que ça sent beaucoup.
Oh.
Mais l'huile, je cherche ma bouteille.
L'huile minérale.
L'huile minérale qu'on prend en pharmacie. Mettons que tu vas en mettre 3-4 fois, ton bois va être protégé.
Disons, mais si tu en mets 3-4 fois, là, tu attends combien de temps entre les couches?
Bon,
tu
la première ça? Fois, peut-être une semaine.
OK.
Après ça, tu pourrais aller au mois. Puis, le fait d'en remettre, ça vient juste donner un petit aspect, peut-être plus de brillance. Mais ça dépend de ce qu'on recherche.
Mais ça, là-dedans, là, toi, tu ne sables pas entre les couches. Là. Il n'y a pas de sablage entre les couches d'huile. Tu
n'as pas besoin parce
pas
que
comme le bois est
déjà sablé finition comme je veux l'avoir. Ça veut dire qu'il vient d'où? On finit ça avec du 220.
C'est ça.
À partir de là, on est... Le bois, il va avoir la bonne finition, disons, la bonne douceur.
Exact. Puis là, bien, naturellement, comme tu dis, là, admettons là, qu'au bout de, je ne sais pas, moi, 3-4 mois, là, la dernière couche que tu donnes, tu n'es plus obligé aux années d'y en redonner une autre. Là.
Non. Moi, mes meubles de chambre, je n'ai jamais retouché.
Non. C'est scellé là, puis.
Oui.
C'est ça, c'est fantastique. Mais
si je voulais avoir un fini un petit peu plus brillant, là, je pourrais en remettre, mais il va finir quand même par disparaître. Moi, il me plaît comme ça. Okay.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, au niveau poussière ou ces choses-là, il n'y a pas de problème. Là. Après ça, tu peux...
pas du
ça
tout.
Se nettoie bien. Puis, mais ça ne laisse pas de rugue. Ça laisse pas de... Ça vient pas rugueux un peu, le bois, à l'huile, non?
Non. Non.
Ah, OK.
Je dirais aux gens là, qui nous écoutent, l'huile va être importante sur nos bonnes planches à découper. Nos planches en bois, soit en érable ou en, on en voit aussi en bambou, par exemple. On a pas mal de
en bambou. Oui.
On les lave au savon, on les essuie comme il faut. Il faut essayer d'enlever le savon le plus possible, bien rincer. On laisse sécher. Après ça, on peut mettre de l'huile minérale. Là, c'est important pour qu'il rentre le moins de bactéries possible dans notre pièce de bois. Là, c'est plus important d'en mettre régulièrement.
Oui, c'est ça. Que c'est justement pour éviter qu'il y ait des bactéries.
C'est ça. Moi, je fais attention. Je ne couperai pas du poulet ou du poisson directement sur une planche en bois.
Non, ça, c'est sûr. Là, aujourd'hui, il y a tellement de bactéries qui courent. On le sait avec qu'est-ce qui court. On n'en parlera pas. Là. Mais... on sait que tu as un autre talent aussi là qui moi là ça me dépasse quand tu m'as montré ça la première fois là tes raquettes.
Oui.
Les raquettes là c'est quelque chose. On va montrer la première puis la première puis il y a une petite histoire en arrière de tout ça, tu nous diras ça. Parce que celle-là ça c'est la première, c'est pas ta l'autre, le Huron, là. Hein?
Non. Celle-là, ça vient de l'oncle à ma conjointe. C'est des raquettes qui peuvent avoir entre 50 et 60 ans, le cadrage.
Puis là, les personnes vont dire, ben là, c'est quoi ce qu'il y a de si spécial à ça? On va la remontrer. Le comment tu appelles ça? Pas le tissage, là, mais le...
Ben, c'est le panier de la raquette, là.
Le panier, c'est ça. Ouais. C'est toi qui est fait. C'est toi
ça,
qui...
Ça, c'est du fil. Oui, ça, c'est moi qui les tresse. J'ai copié, en fait, là, j'avais des vieilles raquettes qui provenaient du village Huron.
Uh-huh.
J'ai acheté ça, j'avais 17 ans. Puis, je les ai ici, là, tantôt, vous les montrerai. Y avait-tu l'autre vidéo pour suivre?
Oui, on a l'autre vidéo. On va le mettre tout de suite. Et voilà, tu le vois, là.
Bon, celles-là, c'est les raquettes à ma conjointe. Là. Elle les aime bien. Moi, je les trouve pas. Moi, je vois les défauts. Là. Mais en fait, le cadrage, c'est moi qui les ai fait avec du frein.
Wow. Alors,
les raquettes qu'on achète, bien là, regardez, bon, ça, mon grand frère. Ça, c'est mes vieilles Hurons. Là.
Attends c'est, un petit peu, ça, Guy, c'est on va.
Le modèle patte de loutre. Ça, j'ai acheté ça, j'avais 17 ans, puis c'était les bonnes vieilles raquettes en babiche.
Wow!
D'une seule pièce, mais eux autres, ils ont vraiment des usines de fabrication, puis ils sont capables de chauffer le bois pour être capable de le plier puis lui donner la forme que tu veux avoir. Moi, je ne suis pas encore capable de faire ça, je me sauve du trouble, je taille des baguettes, bien, je me sauve, je m'en donne aussi, parce que je taille des baguettes de freine d'un 8. Je les mets sur un moule, je les superpose, je leur fais prendre la forme du moule. Après ça, je les colle ensemble avec une bonne colle à bois qui tolère l'humidité et l'eau. Je recolle ça ensemble, je fais mon sablage, je fais mes trous. Puis là, je vais celle-là. Là.
Un petit peu, on va la montrer de plus près. Et voilà.
Et qu'on voit toutes les lignes de laminage.
Waouh!
Pour être capable de donner cette courbure-là, bien, ça prend quelque chose du bois mince. Mais là, j'ai un autre truc pour mes prochaines. Là. Ça devrait fonctionner. Fait qu'on montrera ça un autre jour. Mais j'ai un autre truc pour mes futurs raquettes.
Ah, c'est vraiment.
D'éviter, parce que c'est beaucoup de travail. Là. Coller comme ça, là, c'est énormément de travail.
Et je te dirais que oui, mon cher. Hein?
Oui, puis là, ben, il y a le tressage. Tantôt, on a passé vite, mais c'est tressé ça avec du fil de pêche à morue. C'est habituellement du 200-250 livres test de fil. C'est un brin de un 16 à un 8, dépendant du type de tressage qu'on veut avoir. Celle-là avait été tressée par une collègue de travail qui est une artiste. Elle a vraiment là, la bonne technique. Fait que je copie là-dessus quand je veux en faire. Un de mes amis là, qui a présentement des raquettes Ojibwe, des et je crois des Hurons aussi. Là.
Mais ça, il n'y a pas de neige qui colle après ça. Là.
Oh, mais c'est ça. C'est ça. Le fil de même, là, jamais la neige colle là-dessus. Ça fait une raquette qui est toujours légère. Tu ne sens pas ça dans tes pieds, ces raquettes-là.
C'est ça, tu t'en vas avec ça. Puis c'est, on a beaucoup les raquettes d'aluminium aussi qu'on connaît et tout. Là. Mais je te dirais là, que tu sais, des raquettes. Moi, j'aime le bois. Moi aussi, je suis maniaque de bois. Là. J'ai des pattes d'ours là, qui sont accrochées là-bas, là, après le mur, mais eux sont vieilles. Là. C'est encore de la babiche. Mais tu sais, ça a été. On le sait quand la babiche a vieilli, puis elle n'a pas été bien traitée. On dirait qu'elle s'élargit. Là.
Oui.
Tu sais, ça ne serait pas des raquettes à porter, puis elles sont brisées un tout petit peu, là. Mais elles sont tellement belles. Elles sont sur mon mur, et puis je les enlèverai pas de là, c'est sûr et certain. Là.
Un autre avantage par rapport à le tissage en fil de même, tu marches avec ça, ça ne fait pas de bruit.
Ah, OK, ça, je ne sais pas.
Exact. Tu marches dans la neige folle. Pas sur la croûte.
Ouais.
Sur la croûte. Comparativement aux raquettes modernes, que je trouve que ça fait du bruit. Là.
Ouais.
Ça, c'est sans bruit. Très léger, ouais. Sans bruit, c'est durable aussi.
Ça, sans entretien. Oui, parce que les gens sont éloignés un tout petit peu de la raquette conventionnelle, là, parce que, ben, pas tout le monde, là, mais il y en a, parce que justement, tu es limité. On était limité dans le temps avec ça parce que quand la neige est trop mouillée, ben là, on pouvait pas en faire, hein. Ça se ramassait en dessous des talons, puis oh my gosh, c'était difficile de faire de la raquette. Et puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu la fameuse raquette, là, la tubulure en aluminium avec le dedans, un genre de formica, là, un genre de plastique, là. Où la neige adhère pas.
Ouais.
Tu sais, mais une raquette comme ça pour la personne qui voudrait retourner avec du bois, y a-t-il des endroits au Québec qui referaient en fil de morue?
Qui les ferait, oui. Ben, il y a quelqu'un, ouais, qui les en fait ici à Rouen, là, avec du.
Ah oui?
Oui. les raquettes, parce que les travailleurs forestiers se servent beaucoup de ce type de raquettes-là. Travailleurs forestiers, travailleurs miniers, les plaques se servent beaucoup de la raquette en fil de même. L'avantage, c'est que tu es capable de te réparer. Parce que ces gars-là travaillent avec des machettes. Alors là, traîner de la babiche, puis la babiche, il n'y en a à peu près plus.
Ah non, c'est ça.
Alors, le niveau comme ça, ben ils s'achètent des bobines, puis ils sont capables de se réparer eux-mêmes s'il arrive quelque chose, un coup de matière.
Ah, c'est intelligent. Ouais. Là, il y a une autre vidéo ici, mais je peux pas dire c'est quoi. Ah oui, c'est l'arc.
Ah!
C'est un arc. Tu veux-tu aller voir ça?
Ah oui, non.
Un arc, imaginez-vous. Là, là, on est parti, quand je vous dis Guy est maniaque de bois, OK? On est parti du meuble. On a vu les meubles. Là, on a parlé de raquettes. Sage de raquettes, il fait des raquettes. Puis là, ben, on va parler d'arc conventionnel. C'est spécial, là. Ça, tu sais, puis on n'a pas fini, là. T'en as un petit peu. Il y a d'autres passions aussi. T'en as une minute. Mais là, on va aller voir ça. Ça, là, c'est toi, là. Tu peux nous la décrire, Guy?
En fait, là, ça, c'est un... L'arbre, la sorte de bois, l'essence que je me suis servi pour faire ça, c'est de l'érable de Pennsylvanie. L'érable de Pennsylvanie, quand on va voir dans les livres sur la botanique forestière, ils vont décrire ça comme le synonyme, ça serait le bois d'Orneal. Il y a une raison à ça. Ça s'appelle, il y a le synonyme aussi, le bois barré. Et j'ai même entendu là, d'un de mes amis, le bois de fer. C'est un bois qui est excessivement dur, qui pousse au Québec, mais pas en Abitibi, un petit peu au Témiscamingue, mais assez rarement. On le retrouve habituellement au même endroit que l'érable à sucre. Et là, j'ai eu la chance chez un ami, il n'y a pas longtemps, d'aller sur son lot à bois. Puis il y avait, j'en ai vu comme une trentaine, puis j'en ai ramassé, juste pour vous montrer ici à quoi ça ressemble. Je vais y mettre un petit peu d'huile dessus. Vous allez voir ressortir ce que je veux dire par le bois barré. Là, j'en ai mis sur la table de travail. Là. Ma blonde ne sera pas contente. Quand il pleut en forêt, il est comme ça, l'arbre. On appelle ça le bois barré. Probablement à cause des lignes qu'on voit, les belles veines noires et vertes. Bois barré, bois d'Orneal, et maintenant, bien, bois de fer. Cet arbre-là, bon, dans un premier livre que j'ai regardé, dans Flore Laurentienne, il disait que ça venait 4 mètres de haut, et dans la petite flore du Québec, la petite flore forestière du Québec, il dit jusqu'à 10 mètres de haut. Moi, l'arbre que j'ai coupé avait à peu près 8 mètres de haut. Ça, c'est la partie... À sa base. Le restant, je m'en sers pour faire l'arc que je vais vous montrer tantôt parce que je l'ai ici à côté de moi. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire quel âge ça a, selon eux? Il y a à peu près 3 pouces, disons, là, dans son plus gros là, maximum. Là. Il y en a-tu qui ça leur tente de se prononcer sur l'âge de cet arbre-là? Guy, ça te tente-tu de t'essayer? Est-ce qu'on s'est perdu? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Ben voyons donc. Oh! Ah non! Ouais, ouais. Là, moi... Ouais. Oh ben. Oh non, oh non. Oh non. OK, oui, de protection, non?
Et je l'ai entendu très pique à déclencher.
OK.
Même moi, j'ai mon gros spot, là, tu sais, que je mets pour... ça, c'est la batterie.
Oui.
Donc, j'étais là. Moi,
ouais, il n'y avait pas de problème de ton bord.
Ben oui. Et en me levant, je regarde, je dis, bon, on fait donc bien noir, là. Qu'est-ce qui arrive, là? Tout le village est...
Oh, non!
Ah
ben.
J'espère que ça l'a sauvé, qu'est-ce qu'on a fait. Sinon, on annoncera et on recommencera demain soir.
OK. Là. OK. Là, quand que ça a coupé, j'avais-tu le morceau de bois dans les mains? Là?
Oui. Okay. Ben oui. Ah oui. J'ai dit, là, je te voyais, d'un coup, je te vois, ça l'a arrêté. Puis d'un coup, hop, regarde, il n'y a pas rien.
Mais là, as-tu eu le temps d'entendre la question si les gens voulaient se prononcer sur l'âge de cette branche-là?
Pas tout.
OK. Je t'ai rendu là, puis là, je dis, bon, il y en a-tu que ça leur tente de me dire quel âge a cette branche-là, qui a à peu près 2 pouces de diamètre? Puis là, j'attendais, mais là, je dis, là, me semble que Guy devrait être revenu. Puis là, j'ai dit, Guy, toi, ça te tente-tu de te prononcer sur l'âge? Plus de signal, plus de son, plus... plus rien. Aïe, aïe, aïe. Il y
a le pain qui devient... Hey. Il y a des chandelles. Moi, là, il commence à être noir et tout, là.
OK. Bon.
Bon, t'as dit.
Fait que là...
Là, écoute, on va entendre un peu.
Oui.
Si ça ne part pas du site en 15-20 minutes, on va être fait, là.
Oui.
On aura... Oups, on a reçu un autre appel.
OK.
Ah, c'est Marc qui m'appelle.
OK.
Il n'y a plus rien. Oh. OK, fait que... Écoute, on va voir qu'est-ce qu'on va faire, là.
Là, ouais, OK. Moi, tu un peu qui avait en ligne? Je pourrais leur envoyer des messengers, si c'est du monde de ma gang.
Je sais même
pas. OK. Il y avait Sylvain.
Tu sais, quand il fait qu'il y avait Anne Duval... Okay. Il y avait un autre gars.
Il y avait Sylvain Ami. Bon, là, Marc, t'es pas capable d'y parler à Marc?
Ouais, ben là, il m'appelle.
Oh, mais je vais y envoyer un messenger.
La police, ça passe, là.
Bon.
Qu'est-ce qui arrive?
Il y en a un qui a arraché un poteau.
Ça se peut.
Ça non. Se peut, ça. OK, j'attends tes nouvelles.
OK.
Bye-bye.
Bye.
Oui. Oui. OK. Là, il faut que... Ah, OK. OK. OK, mais regarde bien. Tu peux y aller.
Ah, bien, salut tout le monde. C'est un peu un hasard là, qui est arrivé dans la vie de nos YouTubers, dans nos vies à tous. Panne de courant généralisée à, justement, à Saint-Ulrich, en Belle-Matanie. On a eu des vents de 100 km/h avant-hier. Pas manqué d'électricité. Là, il fait beau, il fait chaud dehors. Plus d'électricité. L'électricité panne générale dans tout le village. Puis je peux vous assurer qu'il fait noir en petit pépère. On voit les gens là, dans, avec leur lampe, avec leur chandelle. Donc, c'est très, très cosy. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, notre ami Guy va naturellement, là, vous avez vu qu'il était en onde quand même, on va arrêter pour le moment le broadcast et puis naturellement, ben, écoutez, si on ne vous revient pas dans une quinzaine de minutes, on s'excuse. On va faire une deuxième partie demain. On va continuer où on était rendu. Donc, encore une fois, je m'excuse si dans 15 minutes, c'est pas revenu. On va vous revenir avec la suite demain. Merci. Salut.
Salut tout le monde.